C'est pourtant de ces objets égaux, reprit-il, tous différents qu'ils sont de cette égalité, que tu as conçu et tiré la connaissance de celle-ci.
C'est très vrai, dit-il.
Et cela qu'elle soit semblable ou dissemblable à ces objets.
Oui.
C'est en effet absolument indifférent, reprit Socrate. Du moment que la vue d'une chose te fait songer à une autre, soit semblable, soit dissemblable, il faut nécessairement que ce soit une réminiscence.
Assurément.
Mais dis-moi, reprit Socrate, que nous arrive-t-il en présence des morceaux de bois égaux et des objets égaux dont nous parlions tout à l'heure? Nous paraissent-ils égaux comme l'égalité en soi, ou dans leur ressemblance à l'égalité? Lui sont-ils inférieurs en quelque chose ou en rien?
Ils lui sont inférieurs de beaucoup, dit-il.
Alors nous sommes d'accord que lorsqu'un homme, en voyant un objet, se dit « Cette chose que je vois aspire à être telle qu'un autre objet réel, mais il lui manque pour cela quelque chose, et elle ne peut être telle que cet objet réel, et elle lui reste inférieure. » Nous sommes d'accord, dis-je, que celui qui a cette pensée doit forcément avoir connu auparavant l'objet auquel il dit que la chose ressemble, mais imparfaitement.
Forcément.
Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé, n'est-ce pas, à propos des choses égales et de l'égalité en soi.
Exactement.
Il faut donc que nous ayons eu connaissance de l'égalité avant le temps où, voyant pour la première fois des choses égales, nous nous sommes dit « Toutes ces choses tendent à être telles que l'égalité, mais ne le sont qu'imparfaitement. »
C'est juste.
Nous sommes d'accord aussi sur ce point. C'est que cette pensée ne nous est venue et n'a pu nous venir que du fait d'avoir vu ou touché ou perçu la chose par quelque autre sens, car pour moi tous ces sens s'équivalent.
Ils s'équivalent en effet, Socrate, pour ce que notre discussion veut démontrer.
Mais alors, c'est des sens que doit nous venir la notion que toutes les égalités sensibles tendent à cette égalité en soi, mais sans y réussir entièrement. N'est-ce pas ce que nous disons?
C'est cela.
Ainsi donc, avant de commencer à voir, à entendre et à faire usage de nos autres sens, il faut que nous ayons pris connaissance de ce qu'est l'égalité en soi, pour y apporter les égalités que nous percevons par les sens, et voir qu'elles aspirent toutes à être telles que cette égalité, mais lui sont inférieures. C'est une conséquence nécessaire de ce qui a été dit. Donc, dès notre naissance, nous voyions, entendions et faisions usage des autres sens.
Certainement.
Il faut donc, disons-nous, qu'avant cela, nous ayons pris connaissance de l'égalité.
Oui.
C'est donc, semble-t-il, avant notre naissance qu'il faut que nous l'ayons prise.
Il le semble.
Conséquemment, si nous avons acquis cette connaissance avant de naître, et si nous sommes nés avec elle, nous connaissions donc aussi, avant de naître et en naissant, non seulement l'égalité, le grand et le petit, mais encore toutes les notions de même nature. Car ce que nous disons ici ne s'applique pas plus à l'égalité qu'au beau en soi, au bon en soi, au juste, au saint, et je le répète, à tout ce que nous marquons du sceau de l'absolu, soit dans les questions, soit dans les réponses que suscite la discussion. De sorte qu'il faut nécessairement que nous ayons pris connaissance de toutes ces notions avant notre naissance.
C'est vrai.
Et si, après avoir pris cette connaissance, nous ne l'oublions pas chaque fois, nous l'aurions toujours dès notre naissance et la garderions toujours pendant notre vie. Savoir, en effet, n'est pas autre chose que garder les connaissances une fois acquises et ne pas les perdre. Car ce que nous appelons oubli, n'est-ce pas, Simmias, la perte de la science?
C'est bien certainement cela, Socrate, dit-il.
Mais si, je suppose, nous avons perdu en naissant les connaissances que nous avions acquises avant de naître, mais qu'en appliquant nos sens aux objets en question, nous ressaisissions ces connaissances que nous possédions précédemment. N'est-il pas vrai que ce que nous appelons apprendre, c'est ressaisir une science qui nous appartient? Et en disant que cela, c'est se ressouvenir, n'emploierions-nous pas le mot juste?
Certainement si.
Car nous avons vu qu'il est possible, en percevant une chose par la vue, ou par lui, ou par quelque autre sens, que cette chose fasse penser à une autre qu'on avait oubliée, et avec laquelle elle avait du rapport, sans lui ressembler ou en lui ressemblant. Par conséquent, il faut, je le répète, de deux choses l'une. Ou bien, que
que nous soyons nés avec la connaissance des réalités en soi, et que nous les gardions toute la vie, tous tant que nous sommes, ou bien que ceux dont nous disions qu'ils apprennent ne fassent pas autre chose que se souvenir, et que la science soit réminiscence. Cela est certainement juste, Socrate. Alors lequel des deux choisis-tu, Signas ? Naissons-nous avec des connaissances, ou bien nous ressouvenons-nous ensuite des choses dont nous avions pris connaissance auparavant ? Je suis incapable, Socrate, de faire ce choix sur le champ. Eh bien, voici une question où tu peux faire un choix et dire ton avis. Un homme qui sait peut-il rendre raison de ce qu'il sait, ou ne le peut-il pas ? Forcément, elle le peut, Socrate, dit-il. Te paraît-il aussi que tous les hommes puissent rendre raison de ces réalités dont nous parlions tout à l'heure ? Je le voudrais bien, ma foi, dit Simmias. Mais j'ai plutôt peur que demain, à cette heure-ci, il n'y ait plus un homme au monde qui soit capable de s'en acquitter dignement. Tu ne crois donc pas, Simmias, dit Socrate, que tous les hommes connaissent ces réalités ? Pas du tout. Alors, ils se ressouviennent de ce qu'ils ont appris jadis ? Nécessairement. En quel temps nos âmes ont-elles acquis la connaissance de ces réalités ? Ce n'est certes pas depuis que nous sommes sous forme d'hommes. Non, certainement. C'est donc avant. Oui. Par conséquent, Simmias, les âmes existaient avant d'être sous la forme humaine, séparées du corps et en possession de la pensée. À moins, Socrate, que nous ne recevions ces connaissances au moment de notre naissance, car il nous reste encore ce temps-là. Fort bien, camarade. Mais en quel autre temps les perdons-nous ? Nous ne naissons pas avec elles, nous venons d'en convenir. Les perdons-nous au moment même où nous les recevons, ou peux-tu indiquer un autre temps ? Pas du tout, Socrate. Par mégarde, j'ai dit une sottise. Voici donc où nous en sommes, Simmias, reprit Socrate. Si ces choses que nous avons toujours à la bouche, le beau, le bien et toutes les essences de cette nature existent réellement, si nous rapportons tout ce qui vient des sens à ces choses qui nous ont paru exister avant nous et nous appartenir en propre, et si nous le comparons à elles, il faut nécessairement que, comme elles existent, notre âme existe aussi, et antérieurement à notre naissance. Si elles n'existent pas, notre raisonnement tombe à plat. N'en est-il pas ainsi, et n'est-ce pas une égale nécessité que ces choses existent et que nos âmes aient existé avant nous, et que si celles-là n'existent pas, celles-ci n'existent pas non plus. C'est merveilleusement exact, à mon avis, Socrate, dit Simmias. C'est vraiment la même nécessité, et ton argumentation a recours fort à propos à l'étroite liaison qu'il y a entre l'existence de l'âme avant notre naissance et l'essence dont tu parles. Car je ne vois rien de plus clair que ceci, c'est que le beau, le bien et toutes les autres choses de même nature dont tu parlais tout à l'heure existent d'une existence aussi réelle que possible. Et pour ma part, je suis satisfait de la démonstration. Mais Cébès, dit Socrate, car il faut aussi convaincre Cébès. Je pense, dit Simmias, qu'il est satisfait aussi, quoiqu'il soit le plus obstiné des hommes à se méfier des raisonnements. Cependant, je crois qu'il est suffisamment persuadé que notre âme existait avant notre naissance. Mais qu'elles doivent encore exister après notre mort, je ne vois pas moi non plus, Socrate, poursuivit-il, que cela soit démontré. Il reste à réfuter cette opinion du vulgaire dont Cébès parlait tout à l'heure. Le vulgaire, en effet, craint qu'au moment où l'homme meurt, son âme ne se dissipe, et que ce ne soit là, pour elle, la fin de l'existence. Car qui empêche qu'elle ne naisse, qu'elle ne se forme de quelque autre chose, et qu'elle n'existe avant d'entrer dans un corps humain ? Que lorsqu'elle y est entrée, puis s'en est séparée, elle ne finisse alors et ne périsse comme lui. Bien parlé, Simmias, dit Cébès. Il me paraît en effet que Socrate n'a prouvé que la moitié de ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire que notre âme existait avant notre naissance. Mais il fallait prouver aussi qu'elle n'existera pas moins après notre mort qu'avant notre naissance, pour que la démonstration fût complète. Elle est complète dès à présent, Simmias et Cébès. Repartit Socrate. Si vous voulez bien joindre cette preuve-ci à celle que nous avons approuvée précédemment, que tout ce qui vit naît de ce qui est mort. Si en effet l'âme existe déjà avant nous, et si quand elle vient à la vie et naît, elle ne peut naître d'aucune autre chose que de la mort et de ce qui est mort. Ne faut-il pas nécessairement aussi qu'elle existe encore après la mort, puisqu'elle doit revenir à la vie? Ainsi la preuve que vous demandez a déjà été donnée. Je vois bien cependant que Cébès et toi, vous seriez bien aise d'approfondir encore davantage la question, et que vous craignez comme les enfants qu'au moment où l'âme sort du corps, le vent ne l'emporte et ne la dissipe réellement. Surtout lorsqu'à l'heure de la mort, le temps n'est pas calme, mais qu'il souffle un grand vent. Sur quoi Cébès, se mettant à rire, « Prends que nous avons peur, Socrate, dit-il, et tâche de nous persuader, ou plutôt, imagine-toi, non que nous ayons peur, mais que peut-être il y a en nous un enfant que ces choses-là effraient, et tâche de le persuader de ne pas craindre la mort comme un croque-mitaine. » « Eh bien, dit Socrate, il faut lui chanter des incantations tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit exorcisé. » « Où trouver, Socrate, répliqua-t-il, un bon enchanteur contre ses frayeurs, quand toi, dit-il, tu nous abandonnes ?»« La Grèce est vaste, Cébès, répliqua-t-il, et il se trouve des hommes excellents. Nombreuses aussi sont les races des barbares. Il faut fouiller tous ces pays pour chercher cet enchanteur, sans épargner votre argent ni vos peines, car il n'est rien pourquoi vous puissiez dépenser votre argent plus à propos. » Mais il faut aussi le chercher vous-même, les uns chez les autres, car il se peut que vous ne trouviez pas non plus facilement des gens plus capables que vous de pratiquer ces enchantements. « C'est ce que nous ferons, » dit Cébès. « Mais revenons, s'il te plaît, au point dont nous sommes partis. »« Oui, cela me plaît. Comment cela ne me plairait-il pas ?»« À merveille, » dit-il.
« Il faut, » reprit Socrate, « nous poser à nous-mêmes une question comme celle-ci. À quelle sorte de chose appartient-il de souffrir cet accident qu'est la dispersion? Et pour quelle sorte de chose avons-nous à le craindre? Pour quelle sorte non? Après cela, nous aurons encore à examiner à laquelle de ces deux sortes appartient l'âme, et d'après cela, à conclure ce que nous avons à espérer ou à craindre pour notre âme à nous. « Cela est vrai, » dit-il. Or, n'est-ce pas à ce qui a été composé et à ce que la nature compose qu'il appartient de se résoudre de la même manière qu'il a été composé? Et s'il y a quelque chose qui ne soit pas composé, n'est-ce pas à cela seul, plus qu'à toute autre chose, qu'il appartient d'échapper à cet accident? Il me semble qu'il en est ainsi, dit Cébès. Dès lors, il est très vraisemblable que les choses qui sont toujours les mêmes et dans le même état ne sont pas les choses composées, et que les choses qui sont tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et qui ne sont jamais les mêmes, celles-là, sont les choses composées. Je le crois pour ma part. Venons maintenant, reprit Socrate, aux choses dont nous parlions précédemment. L'essence elle-même, que dans nos demandes et nos réponses nous définissons par l'être véritable, est-elle toujours la même, et de la même façon, ou tantôt d'une façon, tantôt de l'autre? L'égal en soi, le beau en soi, chaque chose en soi, autrement dit, l'être réel, admet-il jamais un changement, quel qu'il soit, où chacune de ces réalités, étant uniforme et existant pour elle-même, est-elle toujours la même et de la même façon, et n'admet-elle jamais nulle part, en aucune façon, aucune altération? Elle reste nécessairement, Socrate, répondit Cébès, dans le même état et de la même façon. Mais que dirons-nous de la multitude des belles choses, comme les hommes, les chevaux, les vêtements, ou toute autre chose de même nature, qui sont ou égales ou belles, et portent toutes le même nom que les essences? Restent-elles les mêmes, ou bien, tout au rebours des essences, ne peut-on dire qu'elles ne sont jamais les mêmes, ni par rapport à elles-mêmes, ni par rapport aux autres? C'est ceci qui est vrai, dit Cébès, elles ne sont jamais les mêmes. Or, ces choses, on peut les toucher, les voir et les saisir par les autres sens. Au contraire, celles qui sont toujours les mêmes, on ne peut les saisir par aucun autre moyen que par un raisonnement de l'esprit, les choses de ce genre étant invisibles et hors de vue. « Ce que tu dis est parfaitement vrai, » dit-il. « Maintenant veux-tu, » continua Socrate, « que nous posions deux espèces d'êtres, l'une visible, l'autre invisible. « Posons, » dit-il, « et que l'invisible est toujours le même, et le visible, jamais. « Posons-le aussi, » dit-il. « Dis-moi maintenant, » reprit Socrate, « ne sommes-nous pas composés d'un corps et d'une âme ?»« Si, »
dit-il.
À quelle espèce notre corps est-il, selon nous, plus conforme et plus étroitement apparenté?
Il est clair pour tout le monde, répondit-il, que c'est à l'espèce visible.
Et l'âme, est-elle visible ou invisible?
Elle n'est pas visible, Socrate, dit-il, du moins pour l'homme.
Eh bien, mais quand nous parlons de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas, c'est eu égard à la nature humaine. Crois-tu donc qu'il s'agit d'une autre nature?
Non, c'est de la nature humaine.
Et l'âme, dirons-nous qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas?
On ne la voit pas.
Elle est donc invisible.
Oui.
Par conséquent, l'âme est plus conforme que le corps à l'espèce invisible, et le corps plus conforme à l'espèce visible.
De toute nécessité, Socrate.
Ne disions-nous pas aussi, tantôt, que lorsque l'âme se sert du corps pour considérer quelque objet, soit par la vue, soit par l'ouïe, soit par quelque autre sens, car c'est se servir du corps que d'examiner quelque chose avec un sens, elle est alors attirée par le corps vers ce qui change. Elle s'égare elle-même, se trouble, est en proie au vertige, comme si elle était ivre, parce qu'elle est en contact avec des choses qui sont en cet état.
Certainement.
Mais lorsqu'elle examine quelque chose seule et par elle-même, elle se porte là-bas, vers les choses pures, éternelles, immortelles, immuables, et comme elle est apparentée avec elle, elle se tient toujours avec elle, tant qu'elle est seule avec elle-même, et qu'elle n'en est pas empêchée. Dès lors, elle cesse de s'égarer, et en relation avec ces choses, elle reste toujours immuablement la même, à cause de son contact avec elle. Et cet état de l'âme est ce qu'on appelle pensée.
C'est parfaitement bien dit, et très vrai, Socrate, repartit Cébès.
Maintenant, d'après ce que nous avons dit précédemment, et ce que nous disons à présent, à laquelle des deux espèces te semble-t-il que l'âme est la plus ressemblante et plus proche parente?
Il me semble, Socrate, répondit-il, que personne, eût-il la tête la plus dure, ne pourrait disconvenir, après ton argumentation, que l'âme ne soit de toute façon plus semblable à ce qui est toujours le même qu'à ce qui ne l'est pas.
Et le corps?
Il ressemble plus à l'autre espèce.
Considère encore la question de cette façon. Quand l'âme et le corps sont ensemble, la nature prescrit à l'un d'être esclave et d'obéir, à l'autre de commander et d'être maîtresse. D'après cela aussi, lequel des deux te paraît ressembler à ce qui est divin, et lequel à ce qui est mortel? Mais peut-être ne crois-tu pas que ce qui est divin est naturellement fait pour commander et pour diriger, et ce qui est mortel pour obéir et pour être esclave?
Si, je le crois.
Alors auquel des deux ressemble l'âme?
Il est évident, Socrate, que l'âme ressemble à ce qui est divin, et le corps à ce qui est mortel.
Examine à présent Cébès, reprit Socrate. Si de tout ce que nous avons dit, il ne résulte pas que l'âme ressemble de très près à ce qui est divin, immortel, intelligible, simple, indissoluble, toujours le même et toujours semblable à lui-même, et que le corps ressemble parfaitement à ce qui est humain, mortel, non intelligible, multiforme, dissoluble et jamais pareil à soi-même. Pouvons-nous alléguer quelque chose contre ces raisons et prouver qu'il n'en est pas ainsi?
Non.
Alors s'il en est ainsi, n'est-il pas naturel que le corps se dissolve rapidement, et que l'âme au contraire soit absolument indissoluble, ou à peu près?
Sans contredit.
Or tu peux observer, continua-t-il, que lorsque l'homme meurt, la partie de lui qui est visible, le corps, qui gît dans un lieu visible et que nous appelons cadavre, bien qu'il soit naturellement sujet à se dissoudre, à se désagréger et à s'évaporer, n'éprouve d'abord rien de tout cela, et reste, comme il est assez longtemps, très longtemps même, si l'on meurt avec un corps en bon état, et dans une saison également favorable. Car quand le corps est décharné et embaumé, comme on fait en Égypte, il demeure presque entier durant un temps infini. Et même quand il est pourri, certaines de ses parties, les os, les tendons et tout ce qui est du même genre, sont néanmoins presque immortels. N'est-ce pas vrai?
Si.
Peut-on dès lors soutenir que l'âme, qui s'en va dans un lieu qui est, comme elle, noble, pur, invisible, chez celui qui est vraiment l'invisible, auprès d'un Dieu sage et bon, lieu où tout à l'heure, s'il plaît à Dieu, mon âme doit se rendre aussi, que l'âme, dis-je, pourvue de telle qualité et d'une telle nature, se dissipe à tous les vents et périsse en sortant du corps, comme le disent la plupart des hommes. Il s'en faut de beaucoup, chers Cébès et Signas. Voici plutôt ce qui arrive. Si en quittant le corps, elle est pure et n'entraîne rien du corps avec elle, parce que pendant la vie, elle n'avait avec lui aucune communication volontaire, et qu'au contraire, elle le fuyait, et se recueillait en elle-même, par un continuel exercice. Et l'âme qui s'exerce ainsi ne fait pas autre chose que philosopher, au vrai sens du mot, et s'entraîner réellement à mourir aisément. Ou bien crois-tu que ce ne soit pas s'entraîner à la mort? C'est exactement cela. Si donc elle est en cet état, l'âme s'en va vers ce qui est semblable à elle, vers ce qui est invisible, divin, immortel et sage. Et quand elle y est arrivée, elle est heureuse, délivrée de l'erreur, de la folie, des craintes, des amours sauvages, de tous les autres maux de l'humanité. Et comme on le dit des initiés, elle passe véritablement avec les dieux le reste de son existence. Est-ce là ce que nous devons croire, Cébès, ou autre chose? C'est cela par Zeus, dit Cébès. Mais si je suppose, l'âme est souillée et impure en quittant le corps, parce qu'elle était toujours avec lui, prenait soin de lui, l'aimait, se laissait charmer par lui, par ses désirs, au point de croire qu'il n'y a rien de vrai que ce qui est corporel, ce qu'on peut toucher, voir, boire, manger, employer au plaisir de l'amour. Et si elle est habituée à haïr, à craindre et à éviter ce qui est obscur et invisible aux yeux, mais intelligible et saisissable à la philosophie, crois-tu qu'une âme en cet état sera seule en elle-même et sans mélange quand elle quittera le corps? Pas du tout, dit-il. Je crois au contraire qu'elle sera toute pénétrée d'éléments corporels, qui ont dû avec elle, par suite de son commerce et de sa communion avec le corps, dont elle ne se sépare jamais et dont elle prend grand soin. Cela est certain. Mais ces éléments, mon ami, tu dois bien penser qu'ils sont lourds, pesants, terreux et visibles. L'âme où ils se trouvent est alourdie, et tiré en arrière vers le monde visible par la crainte de l'invisible, et comme on dit, de l'Hadès. Elle hante les monuments et les tombeaux, où l'on a même vu de ténébreux fantômes d'âmes, pareils spectres de ces âmes qui n'étaient pas pures en quittant le corps, et qu'on peut voir précisément parce qu'elles participent du visible. Cela est vraisemblable, Socrate. Oui, vraiment, Cébès. Et il est vraisemblable aussi que ce ne sont pas les âmes des bons, mais celles des méchants qui sont forcés d'errer dans ces lieux en punition de leur façon de vivre antérieure, qui était mauvaise. Et elles errent jusqu'au moment où leur amour de l'élément corporel auquel elles sont rivées les enchaîne de nouveau dans un corps. Et alors, elles sont, comme il est naturel, emprisonnées dans des natures qui correspondent à la conduite qu'elles ont eue pendant la vie. Quelles sont ces natures dont tu parles, Socrate? Par exemple, ceux qui sont abandonnés à la gloutonnerie, à la violence, à l'ivrognerie, sans retenue, entrent naturellement dans des corps d'ânes et de bêtes analogues. Ne le crois-tu pas? C'est en effet tout à fait naturel. Et ceux qui ont choisi l'injustice, la tyrannie, la rapine, entrent dans des corps de loups, de faucons, de milans. En quelle autre place, à notre avis, pourraient aller des âmes de cette nature? À coup sûr, dit Cébès. C'est dans ces corps-là qu'elles vont. Pour les autres aussi, reprit-il, il est facile de voir où chacun d'eux va, en accord avec ses propres habitudes. Oui, dit-il, comment serait-il autrement? Ceux d'entre eux qui sont les plus heureux et qui vont à la meilleure place sont ceux qui ont pratiqué la vertu civile et sociale, qu'on appelle tempérance et justice, et qui leur est venue par l'habitude et l'exercice, sans philosophie ni intelligence. Comment sont-ils les plus heureux? Parce qu'il est naturel qu'ils reviennent dans une race sociale et douce comme eux, comme celle des abeilles, des guêpes, des fourmis, ou qu'ils rentrent dans la même race, la race humaine, où ils engendreront d'honnêtes gens. C'est naturel. Mais pour entrer dans la race des dieux, cela n'est pas permis à qui n'a pas été philosophe et n'est point parti entièrement pur. Ce droit n'appartient qu'à l'ami du savoir. C'est pour cela, chers Simias et Cébès, que les vrais philosophes se gardent de toutes les passions du corps, leur résistent et ne s'y abandonnent pas. Et ce n'est pas parce qu'ils craignent la ruine de leur maison et la pauvreté comme le vulgaire, ami de l'argent, ni parce qu'ils redoutent les déshonneurs et l'obscurité de la misère, comme ceux qui aiment le pouvoir et les honneurs. Ce n'est pas pour ces raisons qu'ils s'en gardent. C'est qu'en effet, Socrate, dit Cébès, cela ne leur siérait pas. Non, vraiment, par Zeus, dit Socrate. Voilà pourquoi, Cébès, ceux qui ont quelques soucis de leur âme et ne vivent pas dans le culte de leur corps, tournent le dos à tous ces gens-là et ne tiennent pas le même chemin. Parce que ces gens-là ne savent pas où ils vont. Mais persuadés eux-mêmes qu'il ne faut rien faire qui soit contraire à la philosophie, ni à l'affranchissement et à la purification qu'elle opère, ils prennent le chemin qu'elle leur indique et le suivent. Comment, Socrate ?
Je vais te le dire, repartit Socrate. Les amis de la science, dit-il, savent que, quand la philosophie a pris la direction de leur âme, elle était véritablement enchaînée et soudée à leur corps, et forcée de considérer les réalités au travers des corps comme au travers des barreaux d'un cachot, au lieu de le faire seule et par elle-même, et qu'elle se vautrait dans une ignorance absolue. Et ce qu'il y a de terrible dans cet emprisonnement, la philosophie l'a fort bien vu, c'est qu'il est l'œuvre du désir, en sorte que c'est le prisonnier lui-même qui contribue le plus à serrer ses liens. Les amis de la science savent, dis-je, que la philosophie, qui a pris leur âme en cet état, l'encourage doucement, s'efforce de la délivrer, en lui montrant que, dans l'étude des réalités, le témoignage des yeux est plein d'illusions aussi celui des oreilles et des autres sens, en l'engageant à se séparer d'eux, tant qu'elle n'est pas forcée d'en faire usage, en l'exhortant à se recueillir et à se concentrer en elle-même, et à ne se fier qu'à elle-même, et à ce qu'elle a conçu elle-même, par elle-même, de chaque réalité en soi, et à croire qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'elle voit par d'autres moyens, et qui varie suivant la variété des conditions où il se trouve, puisque les choses de ce genre sont sensibles et visibles, tandis que ce qu'elle voit par elle-même est intelligible et invisible. En conséquence, persuadé qu'il ne faut pas s'opposer à cette délivrance, l'âme du vrai philosophe se tient à l'écart des plaisirs, des passions, des chagrins, des craintes, autant qu'il lui est possible. Elle se rend compte en effet que, quand on est violemment agité par le plaisir, le chagrin, la crainte ou la passion, le mal qu'on en éprouve, parmi ceux auxquels on peut penser, comme la maladie ou les dépenses qu'entraînent les passions, n'est pas aussi grand qu'on le croit, mais qu'on est en proie au plus grand et au dernier des mots, et qu'on n'y prête pas attention. Quel est ce mal, Socrate ? Demanda Cébès. C'est que toute âme humaine, en proie à un plaisir ou à un chagrin violent, est forcée de croire que l'objet qui est la principale cause de ce qu'elle éprouve est très clair et très vrai, alors qu'il n'en est rien. Ces objets sont généralement des choses visibles, n'est-ce pas ?
Oui.
Or, n'est-ce pas quand elle est ainsi affectée que l'âme est le plus strictement enchaînée par le corps?
Comment cela?
Parce que chaque plaisir et chaque peine a pour ainsi dire un clou avec lequel il l'attache et le rive au corps, la rend semblable à lui, et lui fait croire que ce que dit le corps est vrai. Or, du fait qu'elle partage l'opinion du corps et se complaît au même plaisir, elle est forcée, je pense, de prendre les mêmes mœurs et la même manière de vivre. Et par suite, elle est incapable d'arriver jamais pure dans l'Hadès. Elle est toujours contaminée par le corps quand elle en sort. Aussi retombe-t-elle promptement dans un autre corps, et elle y prend racine, comme une semence jetée en terre. Et par suite, elle est privée du commerce de ce qui est divin, pur et simple.
C'est très vrai, Socrate, dit Cébès.
Voilà donc pour quelle raison, Cébès, les véritables amis du savoir sont tempérants et courageux, et non pour les raisons que le vulgaire s'imagine.
Est-ce que tu penserais comme lui ?
Moi ?
Non, certes.
Et tu fais bien. C'est comme je le dis que résonne l'âme du philosophe. Elle ne pense pas que la philosophie doive la délier, pour qu'au moment où elle la délie, elle s'abandonne aux plaisirs et aux peines, et se laisse enchaîner à nouveau, et pour qu'elle s'adonne au travail sans fin de Pénélope, défaisant sa toile. Au contraire, elle se ménage le calme du côté des passions, suit la raison, et ne s'en écarte jamais. Contemple ce qui est vrai, divin, et ne relève pas de l'opinion, et s'en nourrit, convaincue que c'est ainsi qu'elle doit vivre, durant toute la vie. Puis, après la mort, s'en aller vers ce qui lui est le plus apparenté et ce qui est de même nature qu'elle, délivrée des maux humains. Une âme ainsi nourrie, si miasse et s'ébaise, et qui a pratiqué ce détachement, n'a pas du tout à craindre d'être mise en pièces en quittant le corps et dispersée par les vents, de s'envoler dans tous les sens et de n'être plus nulle part.
We work so hard to fly, and no matter what heights we reach, our wings get folded near a candle, to the end. Live without thought of dying.
Ces paroles de Socrate furent suivies d'un silence qui dura longtemps. Lui-même était visiblement absorbé par ce qui avait été dit au cours de l'entretien, et la plupart d'entre nous l'étaient aussi. Cependant, Cébès et Simias s'entretenaient entre eux à voix basse. Socrate, s'en étant aperçu, s'adressa à tous les deux. « Eh, dit-il, peut-être trouvez-vous que ce que nous avons dit est insuffisant ? Il reste en effet bien des doutes et des objections à examiner, si on veut approfondir comme il faut la question. » Si c'est un autre sujet que vous vous occupez, je n'ai rien à dire. Mais si c'est à propos d'une autre que vous êtes embarrassé, n'hésitez pas à parler vous-même et à vous expliquer si vous pensez qu'il y a mieux à dire sur le sujet. Et à votre tour, prenez-moi pour second si vous croyez que je puisse vous aider à sortir d'embarras. À quoi Simias répondit : Je vais te dire la vérité, Socrate. Depuis un moment, chacun de nous, en proie au doute, pousse et engage l'autre à te poser une question, car nous avons grande envie de t'entendre, mais nous hésitons à te déranger, de peur que cela ne te soit désagréable dans ta situation. » En entendant cela, Socrate se prit à rire doucement et dit : Parbleu, Simias, j'aurais vraiment de la peine à persuader aux autres hommes que je ne regarde pas ce qui m'arrive comme un malheur, quand je ne puis même pas vous en persuader vous-même, et quand vous avez peur de me trouver d'humeur plus chagrine que dans ma vie passée. À ce que je vois, vous me croyez inférieur aux signes pour la divination. Quand ils sentent approcher l'heure de leur mort, les signes chantent ce jour-là plus souvent et plus mélodieusement qu'ils ne l'ont jamais fait, parce qu'ils sont joyeux de s'en aller chez le dieu dont ils sont les serviteurs. Mais les hommes, par suite de leur crainte de la mort, vont jusqu'à calomnier les signes, et disent qu'ils déplorent leur trépas par un chant de tristesse. Ils ne réfléchissent pas qu'aucun oiseau ne chante quand il a faim ou froid, ou qu'il est en butte à quelque autre souffrance. Non pas même le rossignol, l'hirondelle et la huppe, qui chantent, dit-on, pour lamenter leur douleur. Mais moi je ne crois pas qu'ils chantent de tristesse, pas plus que les cygnes. Je pense au contraire qu'étant les oiseaux d'Apollon, ils sont devins, et que c'est parce qu'ils prévoient les biens dont on jouit dans l'Hadès qu'ils chantent et se réjouissent ce jour-là plus qu'ils ne l'ont jamais fait pendant leur vie. Or, je me persuade que je suis moi-même attaché au même service que les cygnes, que je suis consacré au même Dieu, que je tiens de notre maître un don prophétique qui ne le cède pas au leur, et que je ne suis pas plus chagrin qu'eux de quitter la vie. C'est pourquoi, à cet égard, vous n'avez qu'à parler et à faire toutes les questions qu'il vous plaira, tant que les 11 des Athéniens le permettront. Voilà qui est parfait, dit Simias. Je vais donc te proposer mes doutes, et Cébès à ton tour te dira en quoi il n'approuve pas ce qui a été dit. Je crois Socrate, et sans doute toi aussi, qu'en pareille matière, il est impossible ou extrêmement difficile de savoir la vérité dans la vie présente. Néanmoins, ce serait faire preuve d'une extrême mollesse de ne pas soumettre ce qu'on en dit à une critique détaillée, et de quitter prise avant de s'être fatigué à considérer la question dans tous les sens. Car on est réduit ici à l'alternative, ou d'apprendre, ou de découvrir ce qui en est, ou, si c'est impossible, de choisir parmi les doctrines humaines la meilleure et la plus difficile à réfuter, et s'embarquant sur elle comme sur un radeau, de se risquer à faire ainsi la traversée de la vie, à moins qu'on ne puisse la faire sûrement, et avec moins de danger, sur un véhicule plus solide, je veux dire, sur une révélation divine. Ainsi, même en ce moment, je n'aurai pas de honte à te questionner, puisqu'aussi bien tu m'y invites, et je ne me reprocherai pas dans la suite de n'avoir pas dit aujourd'hui ce que je pense. Car pour moi, Socrate, quand je repasse ce qui a été dit, soit seul, soit avec Cébès, cela ne me paraît pas entièrement satisfaisant. Il se peut, camarade, reprit Socrate, que ton impression soit juste, mais dis-moi ce qui ne te satisfait pas. C'est que, répondit Smias, on pourrait dire la même chose de l'harmonie d'une lyre, et de la lyre elle-même, et de ses cordes, que l'harmonie est quelque chose d'invisible, d'incorporel, de parfaitement beau et de divin dans la lyre accordée, et que la lyre elle-même et ses cordes sont des corps, de la matière, des choses composées, terreuses, apparentées à la nature mortelle. Supposons maintenant qu'on brise la lyre, et que l'on en coupe ou casse les cordes, puis qu'on soutienne avec ta manière de raisonner que cette harmonie doit nécessairement exister encore, et qu'elle n'est point détruite. Car il est impossible, quand les cordes sont brisées, que la lyre avec ses cordes, qui sont de nature mortelle, existe encore. Et que l'harmonie, qui est de même nature et de même famille que le divin et l'immortel, soit détruite, et qu'elle ait péri avant ce qui est mortel. Non, dira-t-on, il est de toute nécessité que l'harmonie elle-même subsiste encore quelque part, et que le bois et les cordes soient entièrement pourris avant qu'il lui arrive quoi que ce soit. Toi-même, Socrate, tu sais fort bien, je pense, que l'idée que nous nous faisons de l'âme revient à peu près à ceci de même que notre corps est tendu et maintenu par le chaud, le froid, le sec, l'humide et certaines choses du même genre. L'âme est un mélange et une harmonie de ces mêmes éléments quand ils ont été combinés dans une mesure convenable et juste. Or, si l'âme est réellement une harmonie, il est clair que, lorsque le corps est relâché ou tendu démesurément par les maladies ou d'autres maux, il faut nécessairement que l'âme, en dépit de sa nature toute divine, périsse aussitôt comme les autres harmonies, qui sont dans les sons et dans tous les ouvrages des artisans, tandis que les restes de chaque corps durent fort longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient brûlés ou réduits en putréfaction. Vois donc ce que nous pourrons répondre à cette argumentation, si l'on prétend que notre âme, étant un mélange des qualités du corps, périt la première dans ce qu'on appelle la mort. Socrate, alors, promenant ses regards sur nous, comme il en avait l'habitude, sourit et dit. Il est certain que l'objection de Simmias ne manque pas de justesse. Si donc l'un de vous a l'esprit plus agile que moi, qu'il réponde sur le champ. Car Simmias paraît avoir porté un rude coup à l'argument. Il me semble pourtant qu'avant de lui répondre, il faut encore entendre ce que Cébès, de son côté, reproche à l'argument. Nous gagnerons ainsi du temps pour réfléchir à ce que nous répondrons. Puis, quand nous les aurons entendus, nous passerons de leur côté, si nous trouvons qu'ils ont touché la note juste. Sinon, nous entreprendrons alors de défendre l'argument. « Allons, Cébès, ajouta-t-il, dis-nous ce qui t'a troublé et provoqué ta défiance. » Voici, dit Cébès. Il me paraît que la question en est encore au même point et sujette au même reproche que je lui faisais précédemment. Que notre âme ait existé déjà avant d'entrer dans cette forme humaine, je ne reviens pas sur ce point. Il a été fort élégamment, et s'il n'y a pas d'autre cuidance à le dire, parfaitement bien démontré. Mais qu'elle subsiste encore quelque part, quand nous sommes morts, c'est de quoi je ne suis pas convaincu. Cependant, je ne me rends pas à l'objection de Simmias, qui prétend que l'âme n'est pas plus forte et plus durable que le corps, car je crois que, sous tous ses rapports, elle l'emporte infiniment sur lui. Alors pourquoi, pourrait dire l'argument, es-tu encore incrédule, quand tu vois qu'après que l'homme est mort, la partie la plus faible de lui-même subsiste encore? Ne crois-tu pas que la partie la plus forte doit subsister aussi dans le même temps? Voici ma réplique à cette question à quelque force. M'est avis qu'il me faut, comme Simmias, recourir à une comparaison. Il me semble qu'en parlant de la sorte, c'est comme si l'on tenait sur un vieux tisserand qui serait mort, le propos que voici. Le bonhomme n'a point péri, il existe sain et sauf quelque part, et l'on montrerait comme preuve le vêtement qu'il portait et qu'il avait tissé lui-même, en faisant voir que ce vêtement est sain et sauf, et qu'il n'a point péri. Et si quelqu'un refusait de se rendre à cette raison, on lui demanderait quel est le genre le plus durable, celui de l'homme ou de l'habit dont il se sert et qu'il porte. Quand on aurait répondu que c'est le genre de l'homme qui est de beaucoup le plus durable, on croirait avoir démontré que l'homme est certainement sain et sauf, puisque ce qui était moins durable que lui n'a point péri. Mais la réalité, Simmias, est à mon avis tout autre. Fais attention toi aussi à ce que je dis. Le premier venu peut comprendre la sottise d'un pareil raisonnement, car ce tisserand, après avoir usé un grand nombre de ses vêtements tissés par lui-même, est mort après eux, tout nombreux qu'ils étaient. Mais je pense avant le dernier. Et un homme n'est pas pour cela plus chétif ni plus faible qu'un habit. Cette image s'appliquerait bien, je pense, à l'âme et au corps. Et il serait juste de dire d'eux que l'âme dure longtemps et que le corps est plus faible et moins durable. Car on pourrait dire que chaque âme use plusieurs corps, surtout si la vie dure de longues années. Si en effet le corps s'écoule et se dissout pendant que l'homme vit encore, mais que l'âme retisse toujours ce qui est usé, il s'ensuit nécessairement que, quand l'âme vient à périr, elle porte le dernier vêtement qu'elle a tissé et que c'est le seul avant lequel elle meurt. Tandis que, quand l'âme a péri, le corps montre tout de suite sa faiblesse naturelle et se dissout vite, en pourrissant. Par conséquent, nous ne sommes pas encore en droit d'avoir confiance, sur la foi de cet argument, qu'après notre mort, notre âme subsiste encore quelque part. Si en effet on accordait à celui qui soutient cette opinion plus encore que tu ne le fais toi-même, si on lui accordait non seulement que nos âmes ont existé dans le temps qui a précédé notre naissance, mais que rien n'empêche, même après notre mort, quelques-unes d'exister encore, de prolonger leur existence, de naître plusieurs fois et de mourir de nouveau, parce que l'âme est naturellement assez forte pour résister à plusieurs naissances. Si on accordait cela, mais qu'on refusât d'accorder qu'elle ne se fatigue pas dans ses nombreuses naissances et qu'elle ne finit point par périr tout à fait dans une de ses morts, si l'on ajoutait que cette mort et cette dissolution du corps qui porte à l'âme le coup fatal, personne ne la connaît, car il est impossible à qui que ce soit d'entre nous d'en avoir le sentiment. En ce cas, tout homme qui affronterait la mort avec confiance serait un insensé, à moins de pouvoir démontrer que l'âme est absolument immortelle et impérissable. Autrement, l'homme qui va mourir doit toujours craindre que son âme ne périsse radicalement au moment où elle se sépare du corps.